RMC, face aux grandes gueules.
Sarah Knafo est avec nous, députée européenne Reconquête. Bonjour Sarah Knafo.
Bonjour à tous.
Première question, est-ce que vous faites ça à pile ou face?
Pile ou face. Entre.
Entre Éric Zemmour et vous, la candidature...
Je me suis dit que vous alliez peut-être me surprendre, mais vous ne m'avez pas surpris.
La candidature à la présidentielle, c'est à pile ou face? C'est le soir? Vous en parlez dans la cuisine? Comment vous faites?
Alors, on parle de tout, mais pour ce qui est de cette candidature, moi, je souhaite qu'il soit candidat, donc il n'y a pas besoin de tirer à pile ou face.
C'est sûr, ce sera un moins bon candidat quand même.
Ah, pourquoi?
Parce que on a vu en 2022 qu'Éric Zemmour,
va sortir les griffes.
On a vu qu'en 2022 Éric Zemmour
là, c'est pas à pile ou face.
n'était pas très bon dans l'exercice, voilà, que c'était un bon journaliste, un bon polémiste, mais qu'il était pas bon dans l'exercice politique, voilà, ça a été un échec. On a vu avec les municipales, à Paris que, indépendamment des points d'accord ou de désaccord qu'on peut avoir, indépendamment du fond, vous étiez meilleur en campagne que lui et que vous êtes meilleur pour l'exercice.
C'est pas grâce à un compliment que je vais oublier la critique que vous venez de faire sur la campagne de 2022, parce que je suis pas d'accord avec vous. Je pense qu'au contraire, il a surpris tout le monde, notamment par sa capacité d'être un orateur en meeting. On a vu d'autres politiques qui étaient prétendument des politiciens de métier. Valérie Pécresse, j'ai pas envie d'être cruelle, ni de rappeler des mauvais souvenirs et de remuer le couteau dans la plaie. Mais je pense au contraire que sa campagne de 2022 a énormément fait avancer des sujets. Donc ça, c'est sur le fond. Que sur la forme, il a été un très bon candidat, au contraire. Et je disais sur le fond, les sujets qui ont avancé.
C'est pas vraiment vu dans les résultats.
7% pour la première fois.
Vous faites
fois,
un meilleur score à Paris que lui à la présidentielle.
Vous comparez avec une ville. Moi, je suis très fière de mon score. Et encore une fois, je vous remercie de me faire des compliments. Mais je tiens quand même
d'être honnête intellectuellement.
En 2022, faire 7,5% des voix, 2,5 millions d'électeurs pour une toute première candidature, quand la candidate DLR fait 4%, quand la candidate du Parti Socialiste fait 1,87, on peut quand même se dire qu'il y a une réussite. Ensuite, est-ce qu'on aurait préféré mieux? Bien sûr. Est-ce que j'aurais préféré qu'on soit d'ores et déjà à la tête de l'État et qu'on mette en œuvre notre programme? C'est l'objectif. Donc, je ne vais pas me satisfaire de ce qu'on a fait en 2022. Et évidemment qu'il va falloir faire mieux. Maintenant, qu'est-ce que ça a engendré 2022?
Comment faire mieux?
Qu'est-ce que ça a engendré 2022? On a vu à quel point les idées de droite, nos idées, avaient avancé grâce à cette campagne. Ça, je pense que vous serez d'accord, parfois pour le déplorer. Mais en revanche, tout le monde s'accorde à dire, depuis la campagne d'Éric Zemmour en 2022, il y a un avant et un après sur ce qu'on peut dire en France, sur la liberté qui est la nôtre. Aujourd'hui, quand je vois qu'au Parlement européen, peut-être qu'on en reparlera, on a voté pour durcir les conditions d'accueil des migrants, pour faciliter l'expulsion des migrants qui sont sur notre territoire. Et quand je vois que toute la droite...
Avec des centres de rétention extérieurs, notamment.
Exactement. Ok, mais aucun rapport avec Éric Zemmour. Enfin, si les Allemands, si la droite allemande vote pour ça, aucun rapport avec la candidature d'Éric Zemmour.
Là où vous avez raison, c'est que je considère qu'il y a une grande vague occidentale et qu'on en est la représentation française. Je dis pas que tout ce qui se passe partout dans le monde est du fait de Reconquête et de notre parti. Il faut bien sûr savoir raison garder. En revanche, je pense qu'on est la représentation française de cette grande vague qu'on voit partout en Europe et plus globalement partout en Occident.
Mais justement, donc Éric Zemmour, il se déclarera quand?
Moi, je vais pas déclarer sa candidature à
non,
sa
non,
place.
Je sais pas, mais...
Donc, il se déclarera quand il aura décidé. En revanche, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire un pile ou face.
Ok. Est-ce que vous allez répondre à l'invitation de Laurent Wauquiez, qui va organiser un rassemblement d'Édouard Philippe à Éric Zemmour, un rassemblement des droites pour réfléchir? Est-ce que vous êtes OK avec ça?
Oui, pourquoi pas. Moi, je suis toujours d'accord pour discuter, réfléchir. Et je vous dis ce qui s'est passé au Parlement européen. Le vote avec toute la droite, c'est exactement ce que je défends. De dire qu'on est à une situation aujourd'hui tellement grave dans notre pays qu'il va falloir trouver un dénominateur commun entre tous les Français qui partagent ces idées, entre tous les Français qui sont d'accord, par exemple, pour dire qu'il faut en finir avec ce modèle migratoire, en finir avec ce modèle socialiste de toujours augmenter les dépenses publiques et de toujours augmenter les impôts. Si on arrive à trouver un dénominateur commun avec ceux qui le partagent, je suis toujours d'accord pour discuter.
Je voulais connaître votre réaction à l'affaire Liana, ce qu'a dit hier Emmanuel Macron, au moment où on apprenait que l'autopsie révélait que cet enfant avait été violé par Jérôme Barella, puisqu'on a retrouvé des traces d'ADN, on comprend ce que ça veut dire. Quand il a dit il y avait un continent caché, celui des violences faites aux enfants, et maintenant la parole est libérée. Il est à côté de la plaque, le président, ou pas?
Totalement à côté de la plaque. Comment dire que c'était un continent caché? Alors, pour revenir à la campagne que j'ai menée à Paris, j'ai parlé pendant toute ma campagne municipale de périscolaire parisien. J'ai tenté d'imposer ce sujet dans toutes mes interviews, à chaque fois que je prenais la parole. Et même quand on me disait « c'est pas le sujet », je disais « je veux y revenir ». Vous avez aujourd'hui dans le périscolaire parisien, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, pendant que nous parlons, vous avez des animateurs qui n'ont pas été vérifiés. Vous disiez « certains ont le BAFA ». Parfois, on ne vérifie même pas qu'ils aient le BAFA et s'ils sont inscrits au fichier des agresseurs sexuels. C'est aujourd'hui pendant qu'on parle. Vous avez 70 affaires en cours. Dans les deux derniers cas qui ont été soumis devant la justice, on a vu les réquisitions, c'était du sursis. Un an avec sursis. Donc des gens qui seront libres, en liberté, qui n'auront rien pour des cas gravissime. Alors, de pénétration d'enfants avec des cuillères, par exemple, le cas
mais
auquel
vous
je
savez,
pense.
Les réquisitions, ce sont juste des propositions qui sont faites par le parquet. Le tribunal peut très bien décider d'aller au-delà.
Puisqu'on parle du système de la justice, vous serez d'accord que des réquisitions appartiennent aussi à ce système judiciaire et qu'on est en droit de se poser la question de comment est-ce qu'alors qu'un. Pour moi, c'est le plus grave scandale pédophile du siècle qui est en cours en ce moment dans le périscolaire parisien, donc dans des structures publiques, avec une responsabilité publique qui devrait être engagée, quelle est la réponse du maire de Paris? Je l'ai entendu avant-hier, peu de temps après que j'ai reparlé du périscolaire parisien, il a dit « J'annonce d'ores et déjà que j'irai au pénal contre tous ceux qui parleront de la responsabilité de la mairie de Paris. » Alors je l'invite à le faire contre moi, parce que je vais y revenir, il y a une responsabilité de la mairie de Paris. S'il veut porter plainte contre moi, qu'il le fasse. Madame... S'il tient davantage à sa réputation, à la protection de nos enfants, qu'il le fasse. Il a été, monsieur Emmanuel Grégoire, qui a été élu à la mairie de Paris, il a été à la direction des ressources humaines de la mairie de Paris. Qu'il vienne nous faire croire qu'il n'a aucune responsabilité. Depuis 2015, vous aviez un rapport.
Dire, c'est ses collaborateurs.
Vous avez un rapport.
C'est pas lui directement qui examinait les dossiers.
Oui, mais c'est
qui est responsable?
Oui.
C'est les apparences morales.
Voilà. Non, mais un philosophe sait que le principe de responsabilité s'applique aussi à celui
qui a quand même une hypocrisie de toute la classe politique. Je parle de toute la classe politique, vous y compris, en ce qui concerne la lutte contre la pédocriminalité en France. Le sujet du périscolaire, ça fait 10 ans. Un enfant violé toutes les 3 minutes. Voilà. C'est un scandale sur lequel on se bat au quotidien, les associations, les éducateurs depuis longtemps. Ce que je vous reproche, mais pas qu'à vous, à toute la classe politique, c'est que vous ne réagissez que lorsqu'il y a des scandales. Scandale du périscolaire, tout le monde devient expert. On a l'impression que tous les politiques sont experts sur la lutte contre la pédocriminalité. Affaire Liana, vous êtes expert. À la différence que votre parti, je me suis même dit, heureusement, et c'est cynique ce que je vais dire, hein, que Jérôme Barella n'était pas noir ou arabe, parce que sinon certains dans votre parti auraient parlé de francocide. Parce qu'on sait très bien qu'Éric Zemmour, il utilise le fait que l'islam n'est pas compatible avec la République pour taper sur du musulman.
Mélangez tout.
Ben non, je mélange pas tout, parce que c'est quelqu'un qui a quand même dit que...
On parle d'islam, on parle de pédocriminalité,
non,
je suis en train de parler du périscolaire à Paris.
Non,
je vous dis
pas,
que pendant la campagne parisienne,
je ne
touche pas du tout ce que vous dites, au contraire.
Laissez-moi finir,
j'aimerais qu'on parle des enfants.
Si vous n'avez pas compris, je vais réexpliquer. Vous réagissez à un scandale. Vous réagissez à un scandale. Vous n'êtes pas engagé au quotidien sur la question, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas choqué. Évidemment que tout le monde est choqué. Mais je vous ai pas entendu parler. Éric Zemmour ne parle que d'émigration.
C'est faux.
Vous ne parlez pas de la pédophilie.
Qui parlait du périscolaire parisien?
Seulement pendant la campagne, après le scandale.
Et après le scandale, qui en parlait?
Mais avant le scandale.
Qui d'autre? Je pose une
question. Tout le monde en a parlé après le scandale.
C'est totalement faux.
Et bien sûr que si.
Et pourquoi vous dites après le scandale alors que le scandale est en cours? Vous êtes en train de faire de la politique, monsieur.
Je connais le sujet, pardon, je suis un peu plus sur le terrain en ce qui concerne ce sujet-là.
Et je peux
vous
dire que en ce qui
concerne la lutte contre... Donc vous êtes le seul à avoir le droit de parler. Les parents parisiens dont je fais partie n'ont pas le droit de parler parce que monsieur, vous êtes un expert, c'est ça?
C'est pas une question de ça. Mais
donc
je pense que
les parents parisiens connaissent le sujet moins bien que vous.
Non, mais je m'y connais moins un peu mieux que vous. Et juste pour finir, après, promis, je vous laisse parler. Ouais. Vous avez réagi dessus et vous avez même porté une parole très sensée. Ça, je ne le nie pas.
Merci,
mais
monsieur.
C'est quand le scandale a éclaté.
Merci, monsieur.
Or, ça fait plus
écoutez,
de 10 ans que l'on se bat dessus.
Je vais répondre. Pour le professionnel que vous êtes, moi, ça fait 10 ans, j'ai pas entendu parler de vous. Donc vous devriez plutôt être content que des gens
sont
perdus. Mais c'est ce que j'allais vous dire. C'est ce que j'allais vous dire. Si vous êtes sincère sur la question, vous devriez plutôt être content que d'autres voix se joignent à la vôtre, essayent de faire du bruit sur le sujet. Et comme je vous l'ai dit, à chaque fois que j'ai mis les pieds sur un plateau, j'ai essayé de parler de ce sujet du périscolaire parisien et j'ai tenté de l'imposer alors que personne d'autre ne voulait en parler. Et c'est faux de dire que tous les autres en ont parlé. Et c'est d'autant plus faux de dire après le scandale, parce que le scandale est en cours. Donc dire... Il faut réagir après des scandales et c'est ça qui pose problème. Mais vous avez raison. Mais monsieur, vous avez raison. Mais j'aimerais tellement qu'on puisse plutôt empêcher les scandales que venir dire sur des plateaux,
qu'est-ce qu'on doit
faire
maintenant ?
Choqué. Alors moi, ce que je propose, c'est un fichier public des pédocriminels condamnés par la justice. Que s'est-il passé ?
Par qui alors ?
Par tout le monde.
D'accord.
Que s'est-il passé aux États-Unis après le meurtre de Meghan, une enfant de 7 ans qui avait été tuée par un de ses voisins que les parents pensaient être un homme de confiance ? Sa mère a dit: si j'avais su qui était mon voisin, ma fille serait encore en vie. Pourquoi? Parce que cet homme avait déjà été condamné 2 fois et qu'il était venu s'installer dans leur voisinage, qu'il accueillait des enfants chez lui, il faisait des goûters, tous les parents pensaient qu'il était sympathique et finalement, il a tué cette jeune Meghan. Après ce scandale, Aux États-Unis, ils se sont dit, c'est vrai que les familles peuvent avoir le droit de savoir pour des pédocriminels qui sont condamnés, je précise, je dis pas qu'il faut mettre tout le monde dès lors qu'il y a le moindre soupçon, évidemment, mais pour des pédocriminels qui sont condamnés par la justice, qu'il y ait leur inscription sur un fichier avec leurs photos, avec les faits qu'ils ont commis, les crimes qu'ils ont commis, et que chacun puisse le consulter. Par exemple, un directeur de collège, ou alors une famille qui a un doute, quelqu'un qui doit embaucher pour sa colonie de vacances, vous en parliez tout à l'heure.
En condition que ce soit un métier lié aux enfants.
Pas
alors.
Forcément, non, pas non. Forcément. Également les parents, pour ceux qui sont condamnés. Quand je vois aujourd'hui, on est dans une société de la transparence, et à certains égards, c'est très bien. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, on a le droit, par exemple, de savoir la production carbone de n'importe quel produit qu'on achète, les ingrédients qui se trouvent dans chacun de notre pot de yaourt, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit de savoir qui est-ce que nos enfants fréquentent, et si notamment une personne a été condamnée pour des faits de pédocriminalité? Je pense que s'il faut choisir entre la vie privée des pédocriminels et la sécurité de nos enfants, moi je choisirais
alors justement
privée.
L'avocat alors, maître
Pégan. Ça sous-entend quand même qu'on laisse les pédocriminels dehors alors, et qu'il n'y a pas de...
Non, c'est bon. Ah, si Pégan. Vous voulez qu'on les enferme à vie, je serais tout à fait d'accord avec ça. Mais aujourd'hui, alors, quand vous voyez que vous avez des pédocriminels qui sont condamnés à un an avec sursis...
Bien sûr.
Comment ce monsieur soit sur
d'accord.
une liste publique?
Maître Pégan.
Alors, je pense, madame Knafo, qu'il faut dépasser un peu le registre émotionnel, parce que bon, légiférer sur l'émotion, ça a jamais fait de bonnes choses. Maintenant, il faut qu'on soit dans l'évaluation des politiques publiques. Vous parlez d'un fichier public qui serait donc consultable par toute instance.
Par tout le monde public. C'est comme ça.
Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un fichier qui existe déjà.
Le fichier, oui, et qui n'est pas.
Moi, je cherche juste plusieurs choses. Où est la cohérence juridique, parce que si vous voulez que ce soit uniquement sur des personnes qui sont condamnées pour des faits de pédocriminalité, pourquoi alors on mettrait pas dans ce fichier tout ce qui est auteur de violences conjugales, multirécidiviste, terroriste, etc. Donc pour moi, première question, pourquoi il y aurait pas une cohérence juridique et que ça engloberait plusieurs choses?
Parce que c'est pas pareil.
Bah, tu laisseras peut-être Madame Knafo répondre à sa place, puisque c'est pas toi qui fais la proposition. D'ailleurs, ça serait peut-être intéressant. Deuxième chose, vous parlez de cette Megan's Law, puisque donc vous inspirez du modèle américain, mais elle existe depuis 1996. Ce fichier existe depuis 1996, puisque cette affaire remonte à 1996.
Tout à fait.
Est-ce qu'aujourd'hui il y a assez de recul alors que ça fait 30 ans qu'elle existe?
Oui.
Est-ce qu'il y a assez de recul et est-ce qu'il y a des études qui sont faites sur le fait que ça a fait baisser la pédocriminalité ou les violences faites sur les enfants? Je ne crois pas. J'ai fait des recherches et j'ai bien vu que malheureusement, ça n'avait pas fait baisser. Donc vous vous inspirez d'un modèle américain qui finalement n'a pas porté ses fruits comme vous l'espériez.
On sait qu'il y a plus de 100 000 agressions sexuelles sur des enfants. On sait que beaucoup sont commises dans le cadre familiale. Mmh. Donc, pour ces affaires-là, vous avez raison, c'est pas du tout le fichier public qui va pouvoir empêcher des agressions commises dans le cadre familial. En revanche, là où la société peut avoir un rôle, c'est d'empêcher qu'un enfant puisse croiser un pédocriminel notoire, par exemple sur le trajet de l'école,
oui,
comme c'est le cas de Liana, ou par exemple dans l'enceinte de l'école, comme c'est le cas du périscolaire. Je finis juste sur ça. Dans ce cas-là, si on peut en éviter certains, vous avez raison, ce ne sera pas la majorité parce que la majorité, c'est le cadre familial. Si on peut en éviter certains, si on peut donner un outil qui va rassurer les parents, moi, je suis pour. Et je considère que c'est une bonne mesure et qu'il faut aller vers là. Aux États-Unis, quand vous avez eu l'affaire Meghan, beaucoup de parents se sont dit « J'aimerais pouvoir vérifier si quelqu'un sur lequel j'ai un soupçon appartient ou non à ce fichier. Ça peut aider, ça peut sauver des vies. » La mère de Meghan a dit « Ma fille sera encore vivante. » Je pense que les parents de Liana...
Oui, n'aurait rien empêché
pour que les parents de Liana pensent aujourd'hui... Non, parce qu'il n'était pas condamné.
Ben voilà,
mais je pense qu'ils auraient aimé savoir
pas de
qui c'était. Et le problème,
donc, votre
c'est
fichier,
précisément... Le problème,
pas
alors là, j'en arrive, parce que vous avez parlé du FIJAIS, et vous m'y faites penser. Pour le FIJAIS aujourd'hui, vous avez en effet un fichier qui n'est pas public, auxquelles les forces de l'ordre peuvent accéder. Je propose que sur ce fichier, vous ayez également les procédures qui sont en cours. Pas un fichier public, encore une fois, c'est quand quelqu'un est condamné qu'il est sur un fichier public.
Je vous le dis, à partir du moment où vous êtes mis en examen, le magistrat instructeur a la possibilité de vous faire inscrire d'ores et déjà, alors que vous êtes juste au stade de la mise en examen, d'être inscrit dans ce fichier. Donc, ça veut dire que ça serait pour des procédures en cours.
Mais là, vous avez bien vu que, y compris dans ce fichier, il y avait toujours pas, on l'avait toujours pas, dans ce dossier, pardon, on l'avait toujours pas entendu. 9 mois après les faits, en août de l'année dernière, on apprend que ce monsieur, qui pourtant était un récidiviste, alors pas au sens pénal puisqu'il n'avait pas été condamné, mais dont on avait déjà des dossiers en cours, et pourtant il avait toujours pas été entendu.
Oui, donc
là, à la moindre ouverture, il faudrait qu'il puisse être inscrit sur un fichier auquel seules les forces de l'ordre ont accès.
Deux questions rapides pour terminer. Un, est-ce que la présidentielle de 2027, c'est le duel Mélenchon-Le Pen-Mardella inévitablement ou pas?
Non, je crois que rien n'est inévitable. En revanche, je pense que le clivage droite-gauche est en train de revenir en France, que le centre n'a plus rien à dire au pays. Quand je dis le centre, je pense à la Macronie et à ses héritiers. On les entend à longueur d'émission. Moi, j'ai le sentiment qu'ils ne disent rien. en réalité. On nous propose plusieurs candidats. Donc, on a une carte de restaurant avec 15 plats qui ont tous le même goût, tous la même saveur. On s'y retrouve pas trop. À l'inverse, la droite et la gauche, je crois qu'il y a un grand retour. Après une tentative, je dirais, par un duo entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, de sortir du clivage droite-gauche pour créer une sorte d'opposition qu'ils appelaient entre le bloc populaire et le bloc élitaire, ou les mondialistes contre les patriotes. Ils voulaient imposer ce clivage en France, ils y sont parvenus pendant 10 ans, au profit d'Emmanuel Macron. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de sortir largement de ce clivage pour revenir à un véritable clivage droite-gauche. C'est-à-dire sur deux sujets. Le premier, je dirais, sur la question migratoire, avec une droite qui de plus en plus est coalisée autour de la volonté d'en finir avec ce modèle migratoire tel qu'on l'a accepté depuis les années 70 en France. Et deuxième point, et c'est pour ça que là je pense qu'on en est les meilleurs représentants, de refuser le socialisme économique, ce qui n'est pas le cas du Rassemblement National sur de très nombreux aspects, notamment fiscaux, de refuser le socialisme économique et donc de s'opposer à ces 50 nuances de socialisme qu'on retrouve donc, du centre jusqu'à la France insoumise.
Le Reconquête ne fera jamais alliance avec le Rassemblement National dans le cadre d'un, si jamais il y a une victoire.
Je pense que vous avez vu qu'on l'avait à de nombreuses reprises proposé en disant qu'il faudrait qu'on trouve un dénominateur commun. Ouais. Donc je pense toujours qu'il faut trouver un dénominateur commun et être capable de dire, entendons-nous sur un programme minimal, c'est-à-dire si on fait alliance, n'augmentons pas les impôts, comme ils l'ont proposé lors du dernier budget, n'augmentons pas les dépenses publiques et au contraire, ayons un plan massif de baisse des dépenses publiques, arrêtons l'immigration, ça je pense qu'on sera peut-être d'accord sur certaines mesures et encore peut-être pas toutes, mais en revanche, qu'on arrive à trouver avec toute la droite et davantage avec tous les électeurs, et là ce sera le but de l'élection, de réussir à trouver une majorité pour réussir à gagner et demain, coaliser toutes les forces de droite, je l'espère, sur notre programme.
Et Bardella, Marine Le Pen, c'est la même chose ?
Ça, eux seuls peuvent répondre, je dis comme vous la presse.
Vous êtes observatrice politique, vous pouvez répondre.
Dans ce que je vois, c'est qu'il y a des divergences. Après, tous les jours, ils montrent leurs divergences et le lendemain, ils viennent nous dire il n'y a pas une feuille de papier à cigarette, il faut qu'ils se mettent d'accord entre eux. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'avec la présidentielle qui arrive, ils seront obligés d'avoir un seul programme. Il n'y aura pas le programme de Jordan Bardella et à côté le programme de Marine Le Pen. Donc il y aura un seul programme, on pourra juger sur pièce et on regardera. En tout cas, nous, quand viendra la déclaration de candidature, la fameuse, on publiera un vrai programme chiffré, budgété. Chacun pourra se faire une idée, là ce sera clair.
Une dernière question, puisqu'il nous reste une minute. Vous avez été à Vivatech, c'est le salon...
J'y vais, vous allez
à Vivatech, c'est le salon des nouvelles technologies. Il va être beaucoup question d'intelligence artificielle. Ouais. Il y a une tribune qui est sortie, qui est signée par des écrivains, où il s'inquiète d'ailleurs,
oui, en disant
qu'on condamne un projet de société fondé sur la marginalisation de l'être humain. Il y a un philosophe, un chercheur aussi qui dans Le Point dit on va réfléchir à notre place et on va perdre nos capacités cognitives. L'IA, vous craignez l'IA ou pas ?
Je ne leur souhaite pas de perdre leurs capacités cognitives. Manifestement, ce sont des gens qui sont intelligents, donc je ne comprends même pas qu'ils aient aussi peur de l'intelligence artificielle. Ça me fait un peu penser à... vous savez, on parlait des ludites, ceux qui cassaient les machines dans les usines parce qu'ils avaient peur que les machines les remplacent. Et puis finalement, de très nombreux ouvriers, des syndicats aussi, se sont aperçus que la création de ces machines, outils, les aider, rendait parfois les tâches beaucoup moins physiques, beaucoup moins difficiles à faire. Donc, finalement, il y a eu une sorte d'acceptation de ces machines. Moi, je regrette qu'aujourd'hui, on ait des écrivains qui devraient pourtant représenter la pensée européenne, occidentale, croire au progrès scientifique, à la modernité. Donc, plutôt se demander comment est-ce qu'on l'accompagne. Il ne s'agit pas de devenir techno-béa et de tout accepter en disant ça va être formidable et formidable pour tout le monde, non. Mais plutôt, comment est-ce qu'on, d'abord, je pense garder une capacité d'émerveillement devant ces outils qui sortent de terre, qui naissent de l'intelligence occidentale. Là encore, se dire, mais c'est magnifique ce qu'on est en train de réussir à créer. En tout cas, moi, je trouve ça fascinant. Est-ce que ça veut dire que tous les points sont positifs, qu'il n'y aura pas d'enjeu sur l'emploi, que si on n'arrive pas à tout de suite prendre le pli, notamment sur des questions éducatives et universitaires, est-ce que ça signifie que tout sera parfait ? Non. En revanche, ce qui est fait par la classe politique jusqu'ici, là, je serai d'accord, nous conduit à ne pas réussir à prendre cette révolution en marche et à en tirer tout le profit qu'on pourrait en tirer. J'ai publié un rapport sur la souveraineté technologique, j'avais été en charge de la souveraineté technologique au Parlement européen. J'invite chacun à aller voir toutes les propositions que je fais à ce sujet, c'est sur souveraineté-technologique.fr, où je fais beaucoup de propositions, notamment sur comment est-ce que la France peut avoir le leadership sur cette question demain.
Merci Sarah Knafo.